Bonjour, la chronique Finance Vérité d'aujourd'hui a pour titre Manipulation et spéculation, la fortune pour qui ? Comme à chaque fois, je vais vous parler d'abord de l'actualité économique, ensuite vous donner mon conseil du jour, puis vous raconter ici le numéro 1 sur 21, mon histoire de la monnaie. Ce roman historique vrai a pour titre générique Errare humanum est, perseverare diabolicum. Dans l'actualité économique de ces jours derniers, on lit et on voit, on écoute, on raconte en ce moment bien des rumeurs alarmantes. Par exemple, sur tel site marocain, peut-on lire que des émeutes sont craintes, des policiers retraites rameutés, une crise économique, monétaire et financière terrible, attendue pour le second semestre 2009. Le dollar s'effondrerait et avec lui tout le système monétaire occidental. Il faudrait vendre de suite et à toute vitesse, et bien sûr à perte, ses actions en portefeuille avant qu'elles ne vaillent plus rien du tout. Bref, les alarmes se déversent sur les gogos pour qu'ils cèdent tout ce qu'ils ont à vil prix. En vérité, moi je vous dis, ne vendez rien. Il s'agit d'une manipulation grossière. Au contraire, achetez à bas prix les actions dont la valeur boursière est inférieure à la valeur d'actifs nets par action de société, à condition qu'elle soit positionnée sur des marchés porteurs, malgré n'importe quelle crise. Je vais vous en donner un exemple dans mon conseil du jour dans un instant. Par ailleurs, si vous entendez des gens qui se baptisent généralement économistes, expliquer des évolutions monétaires passées, présentes ou à venir par des considérations économiques, fermez le poste ou changez de chaîne. La monnaie n'a rien à voir avec l'économie. Les deux peuvent connaître des évolutions différentes, jusqu'à même opposées. Un exemple, celui du Liban. La livre libanaise ne s'est jamais aussi bien portée que lorsque l'économie du pays était ravagée. On pourrait en prendre bien d'autres. Si l'on parle de monnaie, il faut en parler en termes monétaires uniquement. Disons que les livres sterling, les dollars US, les francs suisses, les yens sont de bien meilleure qualité monétaire que l'euro. Mon conseil patrimonial du jour m'amène à vous proposer d'observer une entreprise que son PDG défend très bien, une entreprise qui est assise sur un marché tellement porteur que tout le monde sait qu'il est l'avenir même. Une entreprise qui fabrique le carburant de tous les véhicules de demain et déjà d'aujourd'hui, l'hydrogène. Cette entreprise s'appelle Air Liquide et a la même un prototype de voiture baptisé H2O depuis fort longtemps qui roule à l'hydrogène et à l'oxygène, gaz extrait de l'eau. Air Liquide a un actif net important, elle est très bien gérée, elle est défendue contre toutes les attaques par un PDG débrouillard qui vient même d'offrir une prime cet automne aux actionnaires qui accepteraient de transformer leurs actions en banque au nominatif direct afin d'éviter la spéculation bancaire. Air Liquide avait un cours médian calculé par les spécialistes publié dans tel journal d'information détaillé de 98 euros en août 2007. En ce moment, ces mêmes spécialistes font tourner le cours médian autour de 75 euros. Mes calculs ont pu déterminer une valeur d'actif net par action de l'ordre de 120 euros en 2007. Même si cette valeur d'actif net par action a pu baisser, je n'ai pas encore les chiffres définitifs pour 2008, je ne la vois pas en dessous de 90 euros. Donc, à la cotation actuelle, surbaissée par des ventes spéculatives massives de traders dangereux, inférieure à 60 euros, acheter des actions Air Liquide permet de s'attendre à une plus-value d'ici quelques mois ou 1 à 3 ans, de toute façon, de l'ordre de plus 50%. Et je m'engage là-dessus. Si l'action devait encore baisser, ce ne serait que par spéculation et intox, il suffirait alors d'en racheter encore pour augmenter encore sa plus-value future. Je vous propose maintenant, dans mon histoire de la monnaie, le chapitre 1 sur 21, et celui-ci nous amène à Alésia, où César gagne la bataille et en prime une très grosse fortune. Notre histoire commence donc en moins 52 avant Jésus-Christ, au moment de cette formidable confrontation de deux grandes puissances, les Gaules réunies d'une part et Rome d'autre part. Cette confrontation est née de la volonté du Sénat romain d'éliminer son puissant voisin et de le soumettre. Rome, déjà maîtresse de tout le bassin méditerranéen qu'elle appelait Mare Nostrum, ne connaissait plus de bornes à sa puissance et mandata Julius Caius Caesar pour conquérir les Gaules contre lesquels elle avait une vieille revanche à prendre, remontant à Breno, dit Brennus, deux siècles auparavant. Cette conquête est racontée par le conquérant lui-même et ses principaux lieutenants dans le fameux Bellum Gallicum. À cette époque, la monnaie était déjà moderne et comparable à la nôtre. Toutefois, seulement jusqu'au XXe siècle, où l'or s'éclipse en 1935-36 au profit des billets de papier de la circulation monétaire sur décision du Front populaire. Pour combien de temps encore? Si nous sommes sûrs que le site d'Alice Sainte-Reine, proche de Beaune et qui s'étend sur des centaines de kilomètres carrés, est bien celui de la fameuse bataille d'Alésia, nom gallo-romanisé d'Alisia, cela tient en bonne partie à ce que depuis 2000 ans y ont été ramassées des pièces de monnaie de toutes origines, ce qui atteste d'une énorme bataille s'est déroulée là. Notons au passage que l'histoire devait amener une nouvelle bataille terrible qui fit 300 000 morts en une seule journée, non loin de là, en pleine champagne humide, dans les fameux champs cataloniques, c'était en 457, laquelle opposa les Huns d'Attila aux trois légions occidentales coalisées, dont la plus belle, la Légion Franque, sous le commandement d'Aétius, celui qui fut surnommé le dernier Romain. Mais revenons à César. On estime que Jules César ramassa après la conquête un butin total de 300 tonnes d'or, partagé entre l'armée, le Sénat et lui-même, ce qui pour l'époque garantit dès lors sa fameuse « fortune », qui n'était donc pas seulement de la chance. Elle lui permit de financer seul une armée levée contre Pompée, lire le Bellum Civile, de franchir le Rubicon en achetant ceux qui convenaient, d'assécher le marais pontin à ses frais, et de poursuivre Pompée jusqu'en Égypte, lire le Bellum Alexandrinum, avant de tenter de se faire proclamer empereur, mais là, peut-être a-t-il manqué de monnaie pour acheter ceux qu'il fallait, car 55 sénateurs se liguèrent contre le dictateur et le lardèrent de coups de poignard aux ides de mars. L'histoire est ici plus réelle et plus complexe que la légende racontée par l'Éducation nationale qui n'est que de la propagande pro-César et pro-romaine. L'or était fort utilisé en Gaule comme monnaie d'une économie prospère. La production d'or se montait à environ 400 tonnes, principalement dans le Limousin, ce qui augmenta donc d'une rente annuelle confortable la fortune, entre guillemets, de César. Rome, elle, utilisait abondamment l'argent. Son système monétaire s'en trouva donc fort bouleversé par le bimétallisme. Toutes les pièces de toutes les tailles furent frappées. La bataille de Gergovie, suivie de celle d'Alésia, opposa 300 000 Romains avec leurs alliés et leurs esclaves à 400 000 Gaulois, dont une cavalerie inouïe de 70 000 chevaux. Comme à l'époque, on transportait toujours sur soi, ou avec soi, toute sa fortune, on imagine aisément le nombre effarant de bourses qui se répandirent par terre, formant un gisement de monnaie ancienne, encore de nos jours, inépuisé. Dans notre prochain épisode, inclus dans notre prochaine chronique, nous vous raconterons comment on devient riche comme Crésus.